les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée.
À l'occasion de la journée scientifique interdisciplinaire organisée par l'EDHAL Pays de la Loire et le laboratoire 3LAM en février 2024, nous avons eu le plaisir de recevoir à la Maison de la Recherche Germaine Tillon à Angers Arnaud Renken, qui a ouvert cette édition sur le thème « Discontinuité et hybridité » avec une conférence inaugurale exploratoire très stimulante. Il nous a aussi fait l'amitié de nous parler de son ouvrage « Babel heureuse pour lire la traduction » paru en 2011 chez Van Dieren Éditeur lors d'un séminaire de recherche du 3LAM. Et c'est cet entretien avec lui que nous vous proposons d'écouter dans le podcast qui suit. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis donc d'accueillir ce soir dans notre séminaire du 3LAM Arnaud Renken. Arnaud Renken est comparatiste et philosophe. Après des études de philosophie et de littérature suivies d'un doctorat à l'Université de Lausanne, il est aujourd'hui professeur de littérature à la Haute École des Arts de Berne, HKB. Il enseigne dans le cadre du Bachelor en écriture de l'Institut littéraire suisse et au sein du Master interdisciplinaire Contemporary Arts Practice, dont il co-dirige avec Stéphane Humble la filière écriture et traduction littéraire. Il est chercheur au sein du pôle intermédialité de la HKB et responsable du projet Traduction-Relation, financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, FNS. Ses travaux concernent notamment la traductologie, les rapports entre philosophie et littérature, entre recherche et création, et les questions de l'étranger et de l'exil. Il est aussi traducteur de David Dunne, Christian Hartz-Niebrig et Bernard Waltenfels. Membre du jury des prix suisses de littérature et du prix Robert Walser, il est l'auteur notamment de Babel heureuse, pour lire la traduction, publié chez Van Dieren Paris en 2012. Et c'est de cet ouvrage que nous allons de ce pas discuter.
Donc pour commencer, on aimerait partir tout simplement du titre donc, de ce bel ouvrage « Babel heureuse » et aussi de cette référence fondatrice à Babel, en lien cette fois-ci avec le plaisir de lecture qu'offre la traduction et aussi le plaisir que produit la traduction en train de se faire. En lisant ton livre, on a trouvé que finalement, loin de se limiter à une glorification peut-être un petit peu simpliste du geste de la traduction, tu t'appuies sur des références philosophiques, sur des références littéraires pour te dégager de tout discours binaire qui serait un petit peu réducteur, un petit peu usé aussi, pour mieux explorer, pour mieux démêler des contradictions qui sont inhérentes à la fois aux notions de traduisibilité et d'intraduisibilité, d'aporie, d'universalité, de relativisme des langues. Et sans te déprendre de textes qui seraient incontournables de la pensée de la traduction, par exemple la tâche du traducteur de Benjamin, des différentes méthodes du traduire de Schleiermacher, je ne sais pas, je suis hispaniste, pardon. Tu tisses des liens avec d'autres langues, avec des textes littéraires ou philosophiques en langue anglaise, en langue française. Tu parles beaucoup dans ton livre de Beckett, de Derrida, de Foucault. Pour mieux sonder en eux ce qui relève toujours déjà de la traduction. Et en particulier quand tu montres comment, par exemple, Foucault traduit à son insu en citant des termes allemands qu'il se réapproprie. Est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu de la manière dont tu as conçu cet ouvrage, un petit peu d'où tu es parti, de quelles expériences pratiques et ou théoriques, de tes lectures? Voilà, ce sont un petit peu toutes ces questions pour lancer la discussion autour de Babel heureuse.
Avec plaisir. Merci d'abord pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. C'est assez étonnant. J'étais dans le train, j'ai quand même un peu réfléchi à ce que j'allais dire. Parce que c'est, ça, voilà, c'est un livre que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Peut-être que je peux commencer par une anecdote biographique qui m'est revenue, en fait, tout récemment. C'est que j'avais mon grand-père maternel, qui parlait l'allemand, m'offrait de temps en temps des livres à lui qui avaient été importants pour lui quand il avait à peu près l'âge que moi j'avais, 70 ans plus tard. Et après, je le revoyais une fois par année, comme ça, puis on parlait du livre qu'il m'avait offert. Et il y a eu des livres magnifiques, Robinson Crusoe, et il y avait des belles expériences comme ça. Il y avait aussi des livres affreux, moraux, de quelqu'un qui a grandi dans les années 20. Et il y avait un livre d'un auteur très connu, d'un auteur qui a marqué des générations d'adolescents et d'adolescentes, qui était le Siddhartha de Hermann Hesse, qui est sorti il y a 102 ans. Et j'ai trouvé ce livre affreux, illisible, impossible à lire. Donc je l'ai lu en allemand. Et je me suis dit, il y a quand même une certaine pression, parce que dans 6 mois, je vais peut-être revoir mon grand-père, il va me demander « qu'est-ce que tu as pensé ?» Bon, du coup, il fallait que je le lise, mais je l'ai trouvé tellement affreux qu'à un moment donné, acte manqué, je l'ai oublié dans le bus et je l'ai perdu. Et c'était avant Internet. Donc, je me suis dit, il faut que je le lise quand même. Et je l'ai acheté en français. Parce que je vis à Lausanne, et puis qu'à Lausanne, on trouvait à l'époque pas beaucoup de livres en allemand. Et je l'ai lu en français et j'ai trouvé extraordinaire, j'ai adoré, j'ai trouvé subtil, j'ai trouvé intéressant, formidable. Mais... d'une certaine manière, c'est là que ça a commencé. J'ai réalisé 2 choses. Premièrement, j'ai réalisé qu'on pouvait avoir un plaisir à lire une traduction, alors même qu'on déteste l'original ou qu'on a eu de la peine à lire l'original. Donc il y a quelque chose qui se passe là qui est spécifique au texte que j'étais en train de lire. Et puis j'ai réalisé une deuxième chose très importante, c'est que j'avais honte de le dire. J'ai jamais dit à mon grand-père que j'avais lu le texte en français. J'étais tellement enthousiaste qu'il m'a refaire des Hermann Hesse en allemand que du coup j'ai de nouveau acheté en français. Enfin bon, c'était un truc absurde. Mais il y a une honte, et c'est une honte. Il y a une gêne, il y a quelque chose qui se dit pas. Et je crois que c'est cette espèce de fascination entre le plaisir et quelque chose quand même d'un peu inavouable qu'on puisse préférer. Qu'on puisse parler l'allemand et préférer acheter Kafka, Bachmann en français. Alors, c'est pas toujours, je le fais pas toujours, mais il y a quelque chose que, même pendant mes études, j'ai trouvé ça compliqué à expliquer. Et d'une certaine manière, c'est un peu cette... je crois savoir maintenant pourquoi c'est gênant. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de concepts pour. C'est-à-dire, même nos universités se sont constituées sur l'idée d'un rapport entre langue et littérature. Proust est lu dans les départements de français, alors que Proust existe de manière beaucoup plus multiple dans toutes les autres langues. C'est intriguant. Il y a toute une série de dispositifs comme ça, d'évidence. Et puis, alors, j'en viens à la réponse. Je me suis dit, j'aimerais écrire sur ce plaisir que j'ai de lire une traduction, de traduire, et puis aussi de lire une traduction. Et très rapidement, j'ai été embarrassé parce que, en fait, les concepts qu'on a en littérature et les concepts aussi de la philosophie, en fait, se sont constitués très largement en exclusion de la traduction. La position de qu'est-ce que c'est qu'un auteur, de qu'est-ce que c'est qu'une voix, cette espèce de symbiose entre langue et littérature qui s'est constituée. Tout ça, c'est des concepts qui se sont fabriqués en excluant, d'une certaine manière, l'expérience de traduction, où on ne sait plus qui parle, où on ne sait plus de qui c'est la voix, dans laquelle le rapport entre... Prenez l'histoire littéraire. On prend l'histoire littéraire. Ben, l'histoire littéraire, c'est l'histoire chronologique du moment où des auteurs d'originaux ont écrit leur texte. Une histoire littéraire qui dirait, en 2020, il y a un Proust qui est sorti dans une autre langue. Mais c'est vrai, il y a vraiment un Proust qui est sorti en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit on dit, ça veut rien dire, parce que l'histoire littéraire, c'est l'histoire des originaux, ou bien, et ça a été mon pari, de dire, essayons de prendre l'hypothèse au sérieux. Je ne dis pas que c'est vrai, nécessairement, mais il y a quelque chose une inquiétude qui se crée là, ou quelque chose de fascinant qui se crée là, dans la possibilité que la littérature d'un auteur puisse exister, même après la mort de l'auteur ou l'autrice en question. Et du coup, d'une certaine manière, je devais faire une thèse en me méfiant des concepts dont j'avais moi-même hérité. et dont je ne peux pas me débarrasser, parce que je suis quand même héritier de ces concepts. Donc je dois travailler avec la notion d'auteur, je dois travailler avec la notion de voix, je dois travailler avec la notion de langue. Je ne peux pas y renoncer, mais je dois m'en méfier. Je dois essayer de travailler avec cette méfiance. Et après, à partir de là, mon travail, d'une certaine manière, on peut dire que les différents chapitres, c'est des chapitres qui sont à la fois liés à des concepts qui m'ont intéressé. Par exemple, j'ai un chapitre sur, je dirais que c'est un peu Foucault, Gadamer, et un auteur qui s'appelle Dürrenmatt, un auteur de littérature, où je m'intéresse à la question de qu'est-ce que ça veut dire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre quand on a deux textes, par exemple, quand on, voilà. Ou bien, qu'est-ce que c'est que l'auteur. Bon, j'essaie de trouver un peu ces... De me faire un peu des concepts sur lesquels je n'ai pas insisté dans le livre, mais qui m'ont dirigé. C'était comme des îles, d'une certaine manière. Je me disais, ah, compréhension, auteur, histoire, bon, peut-être des catégories comme ça. Et ensuite, j'ai choisi des textes qui me semblaient permettre de penser ça, et je les ai lus en traduction. C'est-à-dire en étant attentif à ce qui s'y produit en termes de traduction. Par exemple, Foucault. On n'est pas attentif à Foucault qui parle de Nietzsche, et qui, du coup, en parlant de Nietzsche, traduit Nietzsche, évidemment. En fait, les sciences humaines sont toutes traductives. Hein. Quand Johann Chapoutot parle du nazisme, ben, il l'a écrit en français, avec des documents qui sont en allemand, donc à un moment donné, il traduit. Et puis, on fait un peu comme si c'était uniquement un problème de passage, et puis bon, on rend tout ça transparent. Mais en réalité, il y a une procédure qui se passe. Et puis moi, j'ai essayé de voir cette procédure chez Foucault, par exemple. Alors qu'on ne pense pas souvent à Foucault quand on parle de traduction. Puis après, il y a des auteurs qui sont plus classiques, Benjamin, Derrida, où on pense plus à ça. Alors, j'ai eu des îles. J'ai un peu eu des îles qui ont été des concepts sur lesquels je n'ai pas insisté, mais j'ai travaillé un peu sur ces îles. Je me suis dit, ben voilà, quel dialogue je pourrais entamer avec les auteurices. En fait, les auteurs ont... Ça aussi, c'est quelque chose qui fait... Où je réalise que ce livre est vieux. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autrices, surtout des auteurs. Mais il y a quand même une autrice, Sarah Kaufman, qui est importante pour moi. Mais voilà, il y a, c'était les îlots. Puis après, il y avait aussi un... Ça, c'est discret. Il y a eu une deuxième chose importante, c'est que je voulais faire un... J'ai imaginé ce livre un peu en deux parties, même si elles n'apparaissent pas. Une première partie qui parle plus de l'exclusion de la traduction, de dispositif, des manières dont des discours ont exclu la traduction. Et puis, une deuxième partie où je parle plutôt d'impulsion. Alors, c'est très, très discret, mais j'utilise plus le mot exclusion au début dans la première partie. J'utilise plus le mot impulsion. Chez Derrida, Benjamin, dans les poèmes de Beckett, dans une nouvelle de Dürrenmatt qui s'appelle Le Tunnel, on a plus la traduction, un usage de la traduction qui est plutôt une impulsion. Ça permet d'écrire encore, ça permet d'avancer, ça permet de défermer les textes, de les déclôturer. Tandis que la première partie est un peu plus consacrée à des phénomènes d'exclusion. C'est-à-dire, on fait comme si la traduction n'était pas là. Enfin, je ne suis pas du tout sûr d'avoir répondu à la question. Mais disons que ma procédure, c'était ça. Et puis, il y a Barthes qui m'a beaucoup intéressé pour ça. Et puis, je cite relativement peu. Babel heureux, c'est un titre qui vient de Barthes. C'est dans Le plaisir du texte. Pourquoi Barthes? Mais parce que pour moi, Barthes, c'est... Mais déjà, Barthes travaille sur plein d'ambivalences scientifiques, littéraires, par exemple. Je lis les textes philosophiques comme je lis des textes littéraires. Je ne fais pas une grande différence. Il n'y a pas de grande différence méthodologique. Et parce que je trouve que Barthes vient avec des concepts. Il a une liberté incroyable avec son propre héritage, je trouve. Avec surtout le Barthes tardif, où tout d'un coup, on n'arrivera pas à créer une conceptualité barthésienne. C'est très intuitif. Puis je me suis dit, ben, dans ce geste d'intuition, ce geste d'intuition chez Barthes m'a beaucoup intéressé. Plus le geste que vraiment ce que Barthes dit, parce que Barthes ne dit pas grand-chose, la traduction, ça ne l'intéresse pas énormément, en fait. Mais voilà, ça, c'est un peu la référence barthésienne. Puis voilà.
Mais pour revenir sur cette anecdote... Tu ne te contentes pas de dire qu'il y a un plaisir dans la traduction et de valoriser la traduction. Ce qui est très fort, je trouve, c'est que tu montres à quel point la traduction produit un texte autre et ne cesse de produire ce texte autre. Et en même temps, ce n'est pas simplement une figure de style qui serait celle du prolongement qu'on entend et qui est finalement assez commune. C'est véritablement, et tu l'as bien dit, tu utilises aussi bien des références philosophiques que des références littéraires et tu vois le style dans l'écriture des philosophes et la philosophie dans les textes littéraires. Mmh. Et tu montres à quel point la traduction, en fait, produit de la pensée, mais est irréductible de la pensée. Donc ça va plus loin, j'ai l'impression. C'est ce que tu dis dans un passage sur le texte autre. Mmh. C'est pas dire autrement, quoi. C'est autre chose.
Oui. Et c'est à rebrousse-poil de la chronologie aussi. C'est anachronique. C'est-à-dire un texte. C'est aussi quelque chose où j'ai essayé d'être très attentif à ça en lisant ces textes, mais c'est la manière, pas seulement. J'en reparlerai peut-être un peu demain d'ailleurs, mais que la manière dont les textes, dont l'existence d'une traduction modifie la lisibilité des textes qui l'ont précédé. Je ne suis pas du tout le premier à avoir été attentif à ça. Ça, c'est quelque chose de barthésien d'ailleurs. Barthes parle dans l'intertextualité, en parlant d'intertextualité à un moment donné, du plaisir qu'il a de reconnaître un auteur pourtant plus tardif chez un auteur ou une autrice qui aurait écrit avant. Et c'est pour ça que c'est pas uniquement une affaire de prolongement, c'est vraiment une question aussi d'anachronie, d'essayer de voir, de percevoir la manière dont un texte que l'on connaissait avant a été transformé par le texte qui le suit. Il y a un comparatif zurichois qui s'appelle Hans Jost Frey qui l'a fait de manière très très sérieuse sur Shakespeare. Où il a montré Shakespeare qui avait été traduit par Paul Celan, les sonnets de Shakespeare, et où il montre que même en regardant la littérature secondaire germanophone sur les sonnets de Shakespeare, après la traduction de Celan, Shakespeare a changé. Shakespeare n'est plus le même. Donc il y a plus ce côté. De toute façon, le texte devient quelque chose d'extraordinairement possible et d'extrêmement peu nécessaire d'une certaine manière dans sa clôture.
C'est une idée qu'on retrouve chez Tiphaine Samoyeau aussi, qui renvoie à l'original, mais qui renverse.
Bien sûr.
Et qui repousse la secondarité aussi. Oui. Donc peut-être que tu pourrais revenir aussi sur cette notion de seuil, en fait, qui est à chaque fois recomposé, relayé, relégué, je ne sais pas comment dire, et qui montre plus qu'un lieu, un temps, en fait, l'historicité de la traduction qui est sans cesse reconduite. Mm-hmm. Quelque chose comme ça.
Oui. Le seuil, c'est le moment où, dans un texte, on ne sait plus exactement de quel côté du texte on est. D'un seuil, on ne sait pas jamais trop. Quand je pense à un seuil, je pense toujours aux pantoufles et aux chaussures. On ne sait jamais trop de quel côté du seuil il faut enlever ses chaussures et mettre les pantoufles. Et puis de quel côté il faut. Ou bien, de quel côté on fait ça, en fait. On ne sait pas très bien à quel moment on a passé de l'autre côté du seuil. Il y a une sorte de petit moment de suspension d'un côté. Et en fait, avec la traduction, c'est exactement le même. J'ai trouvé à la lecture de la traduction, c'est exactement le même type d'événement, c'est-à-dire où c'est ce moment que je trouve absolument fascinant, où je ne sais plus très bien. Quel texte influence lequel, ou je ne sais même pas très bien s'il s'agit de deux textes, ou justement d'un troisième, où il y a quelque chose qui se... Et c'est toujours singulier, quelque chose qui se tisse de nouveau, un troisième terme, un troisième moment, que ici j'ai appelé l'étrangeté, d'ailleurs aussi, un peu pour le distinguer de l'altérité. Ça c'est aussi le philosophe que j'ai traduit qui s'appelle Waldenfels, dont un philosophe que j'ai co-traduit qui s'appelle Waldenfels, dont toute la carrière en fait a porté sur la question de qu'est-ce que c'est que l'étranger, qu'est-ce que c'est que l'étrangeté, et ça m'avait beaucoup je l'ai traduit en même temps que j'écrivais ce livre qui était ma thèse de doctorat d'ailleurs. Enfin, c'est une version modifiée de ma thèse de doctorat. La différence entre l'altérité et l'étrangeté, c'est que c'est le point de vue. C'est-à-dire, je peux dire qu'une pomme est autre chose qu'une poire, parce que je ne suis ni une pomme, ni une poire. Tandis que l'étrangeté... Donc, j'ai la possibilité d'un surplomb, j'ai la possibilité d'un regard cartographique. Tandis que l'étrangeté, d'une certaine manière, s'expérimente toujours depuis depuis le dedans, depuis, alors qu'on est dans le flux. Et là, l'expérience, c'est plutôt quelque chose m'échappe. Je ne comprends pas. Une ville où on arrive pour la première fois, comment est-ce qu'on prend son... je l'ai vécu il y a 2 heures. Comment est-ce que je prends un ticket? Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose. Ça marche autrement. Je ne sais pas exactement comment m'orienter. Je ne sais pas où sont les. J'ai pas de repères. Quelque chose m'échappe. Mais j'ai pas. C'est une expérience d'étranger. Et c'est une expérience. Alors ça, je l'ai pas parlé. C'est quelque chose qui m'est venu beaucoup plus tard et donc peut-être dont je reparlerai demain. Mais il y a une manière très simple d'expérimenter. À nouveau, c'est quelque chose d'étrange. En fait, c'est quelque chose qui a été largement exclu. De la réflexion d'une certaine manière traductologique, parce qu'on a transformé la traduction en altérité, en autre chose. Il y a un texte, il y a autre chose. Et si vous êtes bilingue, prenez un mot qui apparemment ne pose aucun problème de traduction. Prenez pomme, apple, apfel. Et puis réfléchissez à la différence entre une pomme et un apfel. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne sait pas faire. La traductologie ou la réflexion sur la traduction s'intéresse à des différences qui sont immenses d'une certaine manière. On dira, en allemand, Sehnsucht, nostalgie, enfin ce qu'on appelle les intraduisibles. Mais en réalité, la traduction, 99% de la traduction, c'est pomme et apfel. C'est ça, là. Il y a là que ça commence là. Mais la différence. Comment on fait comme si c'était la même chose, mais une pomme et un apfel, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes usages de ces fruits. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes expressions. On n'a pas. Bon. Alors c'est quoi la différence entre un pomme et un apfel? Et dès que vous commencez à essayer de le désigner, ou de problématiser là, vous vous rendez compte qu'en fait, on reste bouche bée, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est continuer à traduire. On arrive juste à continuer à traduire, à trouver d'autres équivalents, à dire oui, c'est plutôt comme ça, etc. Mais on n'arrive pas à trouver la position de surplomb qui permettrait de dire, pomme, c'est ça, comme on ferait avec une pomme et une poire, une pomme, c'est ça, une poire, c'est ça, un apple, c'est ça, un apple, c'est ça. Mais on va plutôt se rendre compte qu'en fait, ils sont liés, mais qu'ils ne sont... Et qu'ils créent une sorte de troisième terme, parce que je continuerai à les traduire. Je crée tout le temps, en tant que lecteur, le troisième terme. Mais j'arrive pas à en faire une altérité. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Ça, c'est Waldenfels, d'une certaine manière. Il utilise la métaphore du savon. Ça m'échappe toujours. C'est pour ça qu'il faut éviter le savon liquide.
Ça renforce aussi l'idée que la traduction n'est jamais impossible et jamais possible. Enfin, c'est à chaque fois cette tension-là.
Oui.
Qui est
en fait, c'est peut-être pas nécessairement des très bonnes catégories. La possibilité est... Enfin, c'est toujours ça. Je pense typiquement, il faut s'en méfier. D'ailleurs, les auteurs, philosophes qui s'intéressent à la possibilité ou l'impossibilité de la traduction, c'est le moment où ils deviennent normatifs et le moins intéressant. D'une certaine manière.
Est-ce que c'est la raison aussi pour laquelle tu parles pas de ce que j'ai vu de l'hospitalité ou de lieux comme ça qui seraient un peu dans la tradition d'Antoine Berman, qui est aussi un théoricien très intéressant. Mais j'ai l'impression que tu te dégages un peu de ces images-là qui figeraient peut-être le discours, non je sais pas.
Oui, c'est vrai. Je l'utilise effectivement assez peu. Évidemment, quand on parle d'étrangers, on est quand même très vite dans l'horizon de ce concept-là. Je pense que ce qui me posait problème dans l'hospitalité, c'est que avec ces termes éthiques-là, qui sont très précieux, je n'ai pas du tout envie de les rejeter, mais disons qu'ils suggèrent que j'ai une position fixe. Et ça, je crois que c'est vraiment peut-être le plus important dans ce livre-là, c'est qu'on n'a pas de position fixe. La métaphore que j'ai de Sarah Kaufman, c'est la métaphore de la dérive. Ça vient du... Ce qu'on dit souvent, la traduction, c'est le passage d'un... étymologiquement, en allemand, c'est encore beaucoup plus fort, übersetzen, c'est le passage d'une rive à une autre. Le passage d'une rive à une autre. Et puis, on a aussi des déplacements du même type dans le mot traduction, et puis en anglais, translation. il y a un début et une fin. Moi, j'ai vraiment beaucoup voulu ne pas avoir de début et de fin dans le livre. C'est pour ça que je commence sur la page... Enfin, je voulais que ça commence sur une page de gauche, puis je n'ai pas vraiment de conclusion. Ouais, c'est juste un tiret. Parce que je ne voulais pas arriver à quelques pages, à quelque part. Puis j'utilise ce concept, au lieu de parler de passage d'une rive à une autre, je m'oriente plutôt sur la métaphore de la dérive, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de bouger en même temps que notre objet bouge. Et de ne plus savoir où on est. L'hospitalité est quand même très fortement l'idée qu'on sait où on est. C'est-à-dire, on peut être hospitalier chez soi. On peut difficilement être hospitalier si on n'est pas sûr d'être chez soi. Et moi, j'ai essayé de ne pas être trop sûr d'où si j'étais chez moi, dans ce texte. D'où d'ailleurs le fait que j'ai voulu qu'il y ait plusieurs langues dedans. Il n'y en a déjà pas beaucoup, hein, mais dans la thèse, il y en avait encore plus. Mais que ce soit un texte qui ne soit pas qu'écrit en français. Un peu en allemand aussi, un peu en italien, un peu en anglais.
C'est ça, on a l'impression que tu mets les textes en vis-à-vis, mais jamais de l'un à l'autre. C'est de l'un à un autre et à un autre, etc. Mmh. Donc on n'est jamais comme ça sur un retour au même ou à soi. Ouais. Tu parles à un moment de détour errant.
Oui.
Peut-être que, sans définir la traduction, tu es plus du côté du détour et inépuisable, oui, que produit la traduction.
C'est plutôt cette idée-là. C'est ça. Une image qui vient de Benjamin. Et puis j'aime beaucoup errant, parce que dans errant, il y a aussi erreur. Et puis il y a quelque chose de joyeux, d'une certaine manière, là-dedans. Enfin, que j'ai voulu joyeux. Mais c'est frappant, hein, à quel point dans la traduction, on a vite pris dans le rôle du correcteur. Moi, je me souviens nombre de fois où, avec les collègues, on se redisait une thèse, on disait, oui, mais là, c'est juste une faute. Demain, il y aura des fautes d'orthographe dans le texte que je présenterai. On parlera de faute aussi. Quelque chose de très dérivant dans une faute. Et puis surtout quelque chose de très normatif dans le fait de qualifier de faute plutôt que de voir qu'est-ce que ça fait que ce soit écrit comme ça.
Et en même temps, d'identifier comme faute, c'est ce qui permet de son existence et donc la marge, le pas de côté.
Bien sûr.
C'est un petit peu aussi ce dont tu parles quand tu reprends l'idée de la grammaire et du style. Et là, ça parle, je pense, à tout le monde, même quand on n'est pas traducteur, de ce qu'on perçoit en littérature, dans un ouvrage qui soit novateur, qui s'écarte, qui produit autre chose, ou un autre texte.
Où on ne sait pas exactement où ça va, où ça va nous mener. Ça, c'est la dérive. C'est la différence entre une dérive et un passage, d'une certaine manière. La métaphore du pont, c'est une métaphore qui a fait beaucoup de... Beaucoup de mal, en un sens, à la traduction, parce que le pont, c'est quelque chose qui relie deux rives qui préexistent, donc on pose la préexistence. On ne bouge pas beaucoup, enfin, d'une certaine manière, tous les éléments d'un pont. Alors, soi-même, on peut passer sur le pont, d'une certaine manière, mais le dispositif lui-même, pont, rive, tout est stable, tout est posé de manière extrêmement stable. C'est ce que j'ai voulu éviter. Trouver une forme d'écriture qui évite ça. Alors, l'éditeur, il a eu l'idée de faire un livre, du coup, carré, où on peut finalement le lire en une seule langue, mais on est obligé de passer par la marge, si on veut. C'est-à-dire que les passages dans d'autres langues, dans le texte principal, sont traduits, mais en marge, de manière à pouvoir circuler, à devoir soi-même faire le geste de s'étrangéifier par rapport à la page d'une certaine manière pour pouvoir le lire dans sa propre langue.
Et ça fonctionne particulièrement bien. Enfin, je ne sais pas si pour celles et ceux qui l'ont lu entre les mains, on a un vrai... on serpente vraiment dans la page. C'est impressionnant la circularité du regard et puis les changements de police qui accompagnent tout ça. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de mise en concurrence finalement des textes.
Non, c'est ça. L'éditeur a fait un travail incroyable pour ça. C'est quelqu'un qui est très attentif à ce genre d'expérience-là. Moi, j'aurais été incapable. C'est lui qui a eu l'idée de faire comme ça. Et puis, ça rend le lecteur, idéalement, disons, ça rend la lectrice ou le lecteur du livre actif, d'une certaine manière. Ça le rend lui-même un peu... créer une sorte de petit moment de suspicion par rapport à sa propre pratique de lecture, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très, que je trouve très, enfin que, je, que disons que ça fait partie des idéaux que j'avais quand on a fait, quand on a fabriqué ce livre ensemble avec Patrick Van Dieren.
C'est assez généreux aussi parce que quand on n'est pas germaniste et qu'on ne lit pas les citations en allemand, on ne se sent pas exclu.
Oui, je sais.
Donc c'est assez agréable.
Je ne parle pas toujours très bien toutes les langues qu'il y a dedans non plus. Hein. C'était aussi... Ouais, après un peu quand même. Mais l'allemand et le français, ce n'est pas un problème, mais il y a un ou deux passages en italien. Je crois qu'il y a un ou deux passages en italien, ça va. Je me débrouille un tout petit peu, mais c'est aussi assez beau parce que donc, il y a des petits moments d'incertitude... De ma propre lecture, de bah, qu'est-ce qu'on fait par exemple par rapport à la question des fautes, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'est soi-même pas tellement dans la langue, on les verrait soi-même pas. À un moment donné, on délègue à des gens qui parlent mieux la langue que nous. Quand c'est pas des énormes passages, hein, mais c'est des. Et ça, c'est extrêmement beau aussi, quoi, comme expérience.
Et ce passage de la traduction, justement, de Traduttore et Traditore. Je ne sais pas, tu peux peut-être expliquer ce que tu en avais fait avec la traduction en allemand qui montre que même le terme allemand qui a été choisi pour traduire veut dire aussi bien trahir que révéler, ce qui est la même chose en français. Mais en passant par la traduction en allemand de cet adage, tu relances en fait... le processus traductif. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire plutôt que d'en rester là et de constater quelque chose, tu montres que ça... Enfin, tu exaltes la trahison, en fait. Et c'est assez joyeux aussi, parce qu'en général, c'est plutôt une expression qu'on utilise pour... dévaloriser la traduction, mais de manière un peu facile, en tout cas. Sans vraiment l'analyser, finalement. C'est quelque chose qu'on jette un peu facilement. Je ne sais pas si tu veux revenir sur cette expression-là ou ce que toi, tu as fait.
Oui, ce qu'on peut peut-être dire... Alors, je ne me souviens plus très bien de ce que j'en ai fait, mais ce qui est frappant avec cet adage-là, qu'on trouve peut-être un petit peu moins maintenant, mais à une période, c'était vraiment le... C'est une sorte de passage obligé de le citer une fois dans son texte ou au moins de travailler avec. Ce qui est vraiment fascinant, et je crois que c'était un peu le point de départ dans ce texte aussi de Gadamer, c'est que quand on cite, en citant ce jeu de mots, évidemment dans sa langue originale, sans que le texte ne soit dans la même langue, d'une certaine manière, on force le lecteur tout le temps à traduire ce jeu de mots. C'est une chose que j'ai aussi en tant que traducteur, que j'ai souvent expérimenté. On dit souvent que quand on dit, alors quand on laisse dans les sciences humaines, souvent dans la traduction de sciences humaines, on laisse un mot particulièrement ou un concept particulièrement spécifique, on le laisse dans la langue d'origine de ce. Et ce qu'on dit ou l'impression qu'on a, c'est que du coup, c'est pas traduit. Et à mon avis, c'est fallacieux. Par exemple, si vous prenez, alors je donne un exemple. Vous avez par exemple, c'est ce que je vois aussi chez Foucault. Foucault parle de Ursprung, qui signifie origine, et il lit Nietzsche, et il utilise tout le temps le mot Ursprung. Mais en mettant Ursprung dans un texte français, d'une certaine manière, vous faites une traduction. C'est-à-dire, en gardant le mot de l'original, mais hors du contexte original, vous fabriquez quelque chose comme une traduction. C'est une décision de traduction. Et c'est ce qui m'avait, je crois, frappé dans le traduction trahison, c'est qu'en le laissant tout le temps en langue originale, on faisait comme si on traduisait pas et qu'on pouvait garder le jeu de mots, alors qu'en vérité, dans le contexte du texte, le contexte de son propre texte, on est en train de fabriquer déjà de la traduction. La traduction a déjà lieu dans l'original, d'une certaine manière. En gardant l'original. Garder un original, c'est déjà faire une traduction. Petite parenthèse, c'est... Le terme original est un concept tout aussi relationnel que traduction. On est original de quelque chose. Aucun texte original n'existe, il n'est pas traduit. L'original est la première création de la traduction. Et c'est pour ça que ça peut être... La lisibilité en est modifiée. Quand vous lisez un texte qui n'a pas été traduit dans sa langue dans laquelle une autrice, un auteur l'a écrit, vous lisez pas un original, vous lisez le texte, vous lisez un roman, vous lisez une pièce. Mais jamais vous direz « Ah, je suis en train de lire l'original ». Donc la conscience même d'avoir un original est une expérience traductive. On ne lit des originaux que dans le rapport à la traduction. On ne lit jamais d'original en dehors de ce rapport-là. Donc, si vous mettez... si vous mettez Ursprung dans votre texte, si vous gardez le mot, c'est un choix de traduction. Ce n'est pas une absence de traduction. Et ça fait un effet, c'est super. On peut le faire. Mais pas l'idée que vous échappez que par ce biais-là, on échappe à la traduction. Mais je crois que je n'ai pas du tout pu répondre à ta question sur Gadamer, parce que c'est...
Non, mais c'est... On y revient quand même avec cette idée qu'à chaque fois qu'on cite, finalement, cet adage, on est dans une tentative de traduction. Ouais. Donc ça revient à ça. On aborde ces deux mots-là avec tout ce qui résonne, mais en essayant de le faire sonner autrement. Ouais. Je sais pas, c'est quelque chose de cet ordre-là.
Effectivement, le mot trahison est quand même magnifique parce qu'il signifie aussi révéler. On peut tout à fait le dire comme une révélation, une forme, une manière de révéler quelque chose.
Et ça, tu le montres d'autant mieux en français que tu l'expliques aussi par l'allemand.
Oui,
et c'est là où on sillonne, c'est ce que tu disais. Et c'est le tour de force de ton ouvrage. Et peut-être reparler aussi de ce que tu appelles la désécriture.
C'est aussi quelque chose dont je parlerai un petit peu demain, dans un autre contexte. Mais... Alors, peut-être que je passe de nouveau par l'autre langue. Il y a en allemand un préfixe qui est fascinant, dont je parlerai demain aussi, qui est le préfixe fort. Fort, ça signifie à la fois la continuation de quelque chose, fortfahren, par exemple, continuer, et ça signifie également s'éloigner, en même temps. Continuer et s'éloigner. Et il y a une manière, notamment à partir de Benjamin, pour décrire la traduction, qui est de dire la traduction est une forte schrift. Donc schrift, c'est écriture, forte, c'est ce préfixe-là. Et forte schrift, ça peut vouloir dire donc du coup deux choses. Ça peut vouloir dire la continuation de l'écriture. Hier, j'ai commencé à écrire, aujourd'hui, je continue à écrire, donc... séquençage, mais ça peut aussi vouloir dire dans l'écriture, s'éloigner de l'écriture. Aujourd'hui, je suis encore un peu plus radical, ça sera... j'y reviendrai demain. Je suis même pas sûr que la traduction soit vraiment affaire d'écriture, uniquement. Pourquoi ? Parce que la traduction crée quelque chose de totalement particulier qui est une relation. C'est-à-dire quand vous traduisez même pomme par poire, pardon, déjà là, c'est mal parti. Donc là, vous recommencez et vous traduisez pomme par apple. Vous écrivez à la fois un texte, mais vous écrivez une relation entre deux langues. Et la relation entre deux langues n'est pas de l'ordre de la langue. Donc vous écrivez. Alors bien sûr que vous écrivez aussi, mais il y a un troisième, à nouveau, on revient à ce troisième, il y a une relation qui... Vous inventez une relation entre des textes qui elle-même n'est pas captable dans la langue. Contrairement, donc vous faites autre chose encore que d'écrire. Vous écrivez votre texte, mais en écrivant votre texte, vous écrivez une relation entre votre texte et un autre texte. C'est peut-être ça la désécriture. Vous défaisez quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture, parce que vous créez un troisième, et ce troisième, vous ne pouvez plus le recapter par la langue.
Mais ça vaut que pour l'auteur ou l'autrice, ou est-ce que le lecteur et l'actrice a une trace de ça? Parce que là, on a l'impression que c'est du point de vue...
Aujourd'hui, je pense que le lecteur en a une trace assez simple dans le fait dans l'expérience que ce qu'on écrit en tant que traduction, c'est à la fois dire quelque chose dans la langue dans laquelle on traduit et taire quelque chose dans la langue depuis laquelle on traduit. Si vous dites... La grande différence entre dire « pomme » en français ou dire « pomme » en tant que traduction, par exemple de « apple », c'est que si vous dites pomme comme traduction de Apple, vous taisez, vous, non seulement vous dites pomme, mais vous dites aussi que vous taisez Apple. Ça, je trouve ça complètement fascinant. C'est-à-dire que vous créez une sorte de... je ne l'ai pas encore vraiment thématisé là-dedans, mais je crois que ça a commencé là-dedans. Vous créez un creux. Même dans une seule langue, si vous lisez un texte, si je lis Hermann Hesse comme je l'ai lu adolescent, si je lis Siddhartha en français, j'ai aussi lu que je n'ai pas lu Siddhartha en allemand. C'est-à-dire, je lis un silence, toujours avec. Ou alors, je ne suis pas obligé, mais si je suis attentif à la dimension traductive du texte que je lis, c'est quelque chose qui se produit, à mon avis, en lisant ce texte. Et ça, le texte, on a de ce silence-là, je crois que le texte, on garde presque... En tout cas, dans les textes que moi j'ai lus, on garde toujours les traces de la manière dont il ne parle pas l'autre langue, d'une certaine manière.
Ce qui, peut-être que je ne comprends pas forcément très bien, mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on a l'impression d'une certaine forme d'évidement, alors même qu'il y a la profusion que produit la traduction, c'est bien ça.
Oui,
cette tension-là aussi.
Alors ça, c'est ma grande difficulté, c'est que c'est très difficile de donner à cela une expérience d'une certaine manière soustractive, et qu'il est extrêmement difficile d'en donner une formulation positive, et que je dois trouver le langage, je commence à essayer de le trouver. Je l'ai trouvé notamment chez Arendt. Arendt fait la différence entre la diversité et la pluralité. La diversité, c'est la somme. Et la traduction, il y a toujours les deux. Et la traduction, ensuite, il y a toujours les deux. C'est-à-dire, la diversité, c'est le fait que des choses différentes s'additionnent. Par exemple, le champ politique, c'est un champ aussi de diversité, parce qu'il y a plein d'intérêts différents, divergents, des groupes qui veulent des choses, des gens qui veulent des choses, des opinions qui diffèrent, des visions du monde qui diffèrent. Et puis il y a une diversité, bien sûr, des langues, une somme des langues. Mais il y a en plus, à mon avis, chez elle, quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience de la pluralité. La pluralité, c'est un petit peu autre chose, ça touche à ce que je disais avant avec l'étranger, c'est l'expérience que chez l'autre, quelque chose m'échappe. Quelque chose de la singularité d'une autre position m'échappe. Et c'est ça. Et en réalité, chez elle, c'est une expérience très positive. C'est vraiment ce qui singularise, c'est ce qui prend soin de chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prend soin, et c'est là où j'essaie de trouver un langage positif, qu'est-ce qui prend soin? Comment est-ce que le français prend soin de l'allemand quand je traduis? Eh bien, il en prend soin en ne le parlant pas, d'une certaine manière. Mais en disant, regarde, j'ai une manière très particulière de ne pas en parler. Ça, c'est la traducteur qui invente. Et puis l'allemand, et puis l'original fait la même chose vis-à-vis de la traduction. Si je suis attentive au fait qu'un texte est traduit et qu'il est original, je lis aussi le fait que l'autre lui échappe. Et le texte, et je crois, presque, en tout cas, j'ai le sentiment, j'essaie de le trouver dans les lectures que je fais, que ce soin-là, on le retrouve dans les... On le retrouve vraiment lisible dans les textes, c'est-à-dire qu'après on a des accès au texte où on peut le lire. Je donne un exemple très simple. J'avais étudié un poème de Rilke qui s'appelle Gang. Rilke, ce qu'on ne sait pas, c'est un poète germanophone très connu du début du XXe siècle. Ce qu'on sait assez peu en français, c'est que Rilke a écrit plus en français à la fin de sa vie qu'il n'a écrit en allemand, parce qu'il vivait en Suisse dans une région bilingue, et au fur et à mesure que sa ville est devenue de plus en plus francophone, on en parlait juste avant d'ailleurs, c'est la ville de Sierre, plus elle est devenue francophone et plus il a commencé à lui-même écrire en français, et les derniers recueils de Rilke les a écrits en français. Et une chose qui le passionnait, à part un poème, alors qu'il était vraiment très bilingue, à part un poème, il n'a jamais auto-traduit ses poèmes, mais il a construit toute une série de poèmes sur des intraduisibles. Par exemple, sur le mot « paume ». La paume, en allemand, il n'y a pas de mot pour paume. C'est une sorte de... Voilà, c'est un creux. Alors, il a dit... Du coup, il l'a écrit en français, et il a écrit toute une série de poèmes aussi allemands dans lesquels apparaît le mot palme, la palme, parce qu'en fait, il y a une racine commune entre la paume et la palme. Donc, il a entouré. Bon. Et il a écrit un poème. Et parmi tous ces presque tous ces poèmes qu'il a, où il a choisi des motifs communs, il y a Gong, un poème, des poèmes en français et en allemand qui s'appelle Gong. Et moi, j'ai été étonné. Je me suis dit, c'est quand même pas très. C'est pas une sorte d'intraduisible, Gong. Gong, c'est en allemand, Gong. Et en français, c'est Gong. C'est pas très intraduisible. Mais en même temps, comme c'est un onomatopée, et puis qu'on n'a pas la même glotte, on n'a pas le même palais, eh bien, en lisant, j'arrive pas à vous dire la différence, mais en le lisant, je sens cette différence. Et un des traducteurs, Philippe Jacotet, de ce poème allemand Gong vers le français, il a fait une chose très très minimale, c'est qu'il a gardé la majuscule. En allemand, tous les substantifs s'écrivent avec des majuscules. Et il a écrit Gong aussi dans son poème. Donc on le prononcera Gong, mais aucun Gong majuscule comme ça n'existe en français. Donc il a marqué le creux. Il a marqué le creux par la majuscule. Et ça, pour moi, c'est une expérience positivement soustractive, c'est-à-dire pas une expérience où il y a quelque chose qui me manque, mais une expérience de ici, le texte prend soin de la glotte, du palais, du cou, des cordes vocales germanophones d'un autre texte. Et c'est ça que j'appellerais. Donc, je ne suis pas très content du mot, du fait que ce soit une soustraction. Demain, je parlerai beaucoup de soustraction. Mais c'est cette expérience-là qui est, en fait, qui vient un peu après Babel Heureuse, mais pour lequel j'ai pas beaucoup de. Enfin, pour lequel il faut que je trouve encore la langue pour pouvoir, enfin, les concepts pour pouvoir le décrire. Arendt m'en a donné un peu, mais ça reste un peu déceptif, je suis d'accord, en fait. Mais on a diversité, pluralité, une expérience de profusion, simultanément une expérience de creux, mais de creux qui est quelque chose qui accueille, qui est de l'ordre du. Comme quand on a un moule pour quelque chose qui donne forme. Voilà, ce serait plutôt. Et puis là, bon, voilà, tout ça pour dire des écritures. Et la désécriture, je crois pour moi, je la pense un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire une écriture qui ne manque pas uniquement ce qu'elle dit, qui n'est pas dans la question de l'explicite, mais qui essaye de donner l'expérience du manque de l'autre langue. Je pense que Beckett, par exemple, est super pour ça. Les poèmes de Beckett sont vraiment. Fonctionnent beaucoup. Avec cette question-là aussi, avec ce minimalisme.
Oui, parce qu'on a tendance à entendre dans des écritures quelque chose qui se défait, mais en fait, ce que tu dis très bien, c'est que ça se refait.
Ça se refait, oui.
Mais je me demandais si ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait trouver aussi à l'intérieur, même si ça a un sens d'une langue, c'est-à-dire une expérience qu'on pourrait faire de manière intralinguistique aussi.
Oui, moi je suis convaincu que ce n'est pas du tout un truc de bilingue, trilingue. Je crois que c'est vraiment des choses qui ont. Ça, là aussi, Arendt le dit à un moment donné, elle dit, mais l'expérience de la pluralité des langues, elle n'est pas dans le fait de pouvoir parler les langues, elle est dans le fait de savoir qu'on pourrait parler les langues. C'est-à-dire dans le caractère apprenable. Dans la conscience que autre langue il y a. En fait, on devient bilingue au moment où on sait qu'il y a d'autres langues, pas nécessairement au moment où on parle, où on maîtrise plusieurs langues. Ça commence là, je crois. Donc c'est une expérience tout à fait monolingue. Pardon ?
Un peu à la glissant.
Ah, complètement. Alors glissant est sûrement quelqu'un. Moi, je trouve que glissant a vraiment. Il y a vraiment plein de choses à découvrir encore chez glissant sur ces questions-là et sur la relation.
Tu parles aussi de la question de la musique et du thème musical dans la traduction. Alors, je ne sais pas si tu le mets directement en relation avec l'idée d'écho qui revient beaucoup. Du coup, voilà, je me demandais un peu comment tu travailles cette musicalité aussi de la traduction.
Il y a eu un moment donné, je crois, pendant mes études, je ne sais pas si ça existe encore, où il y a eu une très grande superposition entre la question de l'interprétation musicale et la traduction. Je crois que George Steiner, par exemple, a travaillé un peu là-dessus. Et puis, dans l'espace germanophone dans lequel j'ai été formé en partie, c'était assez important. Cette expérience-là. Alors, je me souviens plus. Je dois dire que je me souviens plus très bien comment j'ai fabriqué, comment moi j'ai finalement travaillé cette question-là. Mais je peux vous raconter une expérience que j'ai eue au moment où j'écrivais ça, où j'écrivais là-dessus. Je prenais des cours, à Genève, qui est pas loin de Lausanne. Je faisais une heure de train. Et dans le train, je rencontrais régulièrement une personne qui était musicologue et qui détestait écouter la musique. Il adorait lire la musique. Il avait un plaisir. Il avait des partitions et il lisait. Il avait une expérience musicale ou esthétique qui le comblait en lisant les partitions et non pas en exécutant les partitions. Et ça m'a frappé parce que je crois que ce qui moi m'intéressait dans le fait de relier quelque chose entre musique et traduction est peut-être moins lié au fait qu'il y a une partition et puis qu'il y a une continuation que dans le fait qu'il y a un appel dans un texte à pouvoir être encore traduit. C'est-à-dire dans le fait que moi, dans mon rapport que j'ai à la partition, c'est plutôt celui d'une frustration. C'est-à-dire, j'aimerais... Qu'est-ce que ça fait? Et s'il y a une dimension musicale dans un original, dans un texte, c'est probablement plutôt, pour moi, dans le fait d'être... c'est ce que Benjamin appelle la traductibilité, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est l'appel d'un original... C'est l'appel d'un texte à être traduit. Que les traduits, je sais pas, pour ceux qui vous traduisent ici, moi je connais ça. Il y a des textes que j'ai envie de traduire. Il y a des appels, un texte appelle à la traduction. À l'exception très curieuse, du fait qu'on a, et c'est exactement nouveau un truc qui est peut-être lié à la musique, on ne le fait pas avec les traductions. On ne traduit pas des traductions. Et puis, normalement, on renote pas, enfin, peut-être que les musiciens le font, je ne sais pas, mais à ma connaissance, on ne refait pas la partition d'un texte à partir de ce qui est joué de ce texte. C'est-à-dire, il y a une sorte d'interruption qui se fait dans notre usage de la traduction, que je trouve d'ailleurs très discutable. Je trouve qu'on pourrait beaucoup plus traduire des traductions. Et puis, on pourrait peut-être beaucoup plus créer des partitions à partir de l'exécution de morceaux de musique. Mais je crois que c'est là le danger, peut-être, la métaphore musicale. C'est que, en fait, elle suggère une interruption et qui existe, de fait, institutionnellement. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui seront d'accord, par exemple. Mon rêve, un de mes rêves, que j'ai commencé et que je n'ai jamais réussi, c'est de traduire en français les traductions que Walter Benjamin a fait des tableaux parisiens de Baudelaire. Parce qu'elles sont extraordinaires. Puis je me dis, c'est toujours tellement triste que quand on est francophone, on ne puisse pas lire la manière dont Benjamin traduit Baudelaire. Et ben, je n'ai pas trouvé d'éditeur qui veut bien faire ça. mais... non, puis c'est un travail immense. Parce que ça pose... Là, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je traduis? Je traduis Baudelaire nouveau en français? Est-ce que je traduis Benjamin en français? Est-ce que je traduis vraiment comme Baudelaire? Est-ce que je traduis quelque chose comme une relation entre les deux? Il y a des magnifiques questions qui se posent à partir de là. Mais je trouve qu'on devrait beaucoup plus soutenir le fait de retraduire, de pluraliser nos classiques d'une certaine manière, puis d'avoir Baudelaire en rétro-traduction. Il y a une exception, c'est le neveu de Rameau de Diderot, que je connais, parce que le neveu de Rameau... Alors, je ne connais pas exactement l'histoire, mais il existe le traducteur de Diderot, c'était Goethe. Et Diderot est décédé avant la publication en français du neveu de Rameau. Et Goethe l'avait traduit. Et pour une raison ou une autre, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons, le manuscrit a été perdu. Ce qui fait que la première édition en français du neveu de Rameau de Diderot, c'est en fait la rétro-traduction en français de la traduction qu'en avait fait Goethe. Et après, ils ont retrouvé le manuscrit et on en a fait une édition critique. Mais cette première traduction, cette première réception, d'une certaine manière aussi, de Diderot, elle est presque taboue. Et Barbara Cassin a édité chez Fayard une version trilingue, enfin, une édition des trois textes de la traduction de Goethe en allemand, de la de la première rétro-traduction en français et puis de la version autorisée de Diderot. Je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Je crois que c'est publié chez Fayard. Et ça, c'est un magnifique projet. Je pense que j'ai été peut-être un peu naïf sur la métaphore musicale assez longtemps. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle a aussi pour fonction peut-être d'arrêter quelque chose qui est de l'ordre de la traduction. Quand on dit la traduction être comme une interprétation. Ce qui est par contre vrai... Non, et puis il y a peut-être une deuxième raison, c'est que je crois vraiment de plus en plus fortement que une des... Tiphaine Samoyeau en parle aussi. Elle le dit un peu autrement que moi, mais un effet fondamental de la traduction, c'est que les textes deviennent possibles et qu'ils ne sont plus nécessaires. Et avec la partition, la partition reste nécessaire, dans beaucoup de partitions classiques. En tout cas, évidemment, il y a tout le travail des musiciens qui est... Mais la traduction, c'est plus radical, d'une certaine manière. Ça rend la partition, entre guillemets, de base, l'original, ça le rend juste possible. Ça devient des textes possibles.
Merci à Arnaud Renken de nous avoir si généreusement parlé de ses travaux de recherche particulièrement riches, à la croisée de la philosophie et de la traductologie. Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt !